Hello tout le monde, ici Seb de Distorsion. Déjà notre saison 8 tire à sa fin. En attendant notre retour à l'automne 2023, sachez que la saison se poursuit sur Patreon.
Exactement, Seb. En vous abonnant au forfait Oui Monsieur au patreon.com/distorsion, vous aurez accès à un épisode secret exclusivement réservé pour vous. Vous aurez aussi accès aux autres épisodes secrets des saisons précédentes, ainsi qu'aux épisodes bonus et aux after-shows.
Aussi, sachez qu'on a des surprises qui s'en viennent au cours de l'été pour nos abonnés. Donc, encore plus d'aimer les Seb en attendant notre retour.
On tient à vous remercier énormément pour cette saison incroyable. Merci de votre soutien, peu importe sur quelle plateforme vous nous écoutez.
Sur ce, bon été et bonne écoute!
Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien.
Bonsoir, chers distordus. Ici Seb. Dans cette mini-disto, je me suis intéressé à un des côtés sombres de Facebook. La culture du like, les j'aime. Il y a un peu plus de 15 ans maintenant, le 4 février 2004, The Facebook est lancé pour les étudiants de Harvard. Son cofondateur, Mark Zuckerberg, s'est entouré de ses amis Eduardo Savarin, Dustin Moskovitch et Chris Hughes, avec qui il étudiait à l'université Harvard, pour créer le plus gros réseau social jusqu'à maintenant sur la planète. Si les membres de Facebook habitaient tous au même endroit, il serait le pays le plus populeux de la planète, devant la Chine et l'Inde. Il y a plus de 2,45 milliards d'humains qui s'y connectent chaque mois. Le succès a été immédiat auprès des élèves de l'université, car il faut se rappeler que Facebook n'était qu'à la base un bottin en ligne d'étudiants universitaires et que les inscriptions n'étaient ouvertes qu'à eux à l'époque. Les choses ont bien changé depuis, car l'accès s'est graduellement ouvert à d'autres universités, puis ensuite aux écoles secondaires, pour enfin devenir grand public. Mark Zuckerberg est toujours l'actionnaire majoritaire et le président-directeur général de Facebook. Sa fortune personnelle est estimée à 74,1 milliards de dollars américains en 2019. Il est donc placé 8e sur la fameuse liste des milliardaires du monde de Forbes. Facebook fait beaucoup la manchette depuis toujours. Sa croissance monstre et son emprise quotidienne dans la vie de plus de 2 milliards de personnes dans le monde poussent les législations de plusieurs pays à se questionner sur ses impacts variés sur la société. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de données personnelles vendues à des entreprises ou d'ingérence dans la démocratie, mais plutôt de la fameuse culture du like. Cette culture que l'on entretient tous à notre façon. Pratiquement personne n'y échappe. Qui n'aime pas recevoir de mention j'aime lorsqu'il met à jour sa photo de profil, ou lorsqu'il partage une anecdote, ou un moment de vie, ou même un article sur le web qui lui semble intéressant? C'est normal, c'est humain et c'est biochimique. Cette chaire dopamine qui est sécrétée dans notre cerveau à chaque fois qu'elle entend ou aperçoit une notification nous rend accro. Normal, c'est une récompense pour notre cerveau. Et nous, par réflexe rendu quasi pavlovien, on va voir qui a aimé ou commenté notre publication. On n'y pense même plus. La culture du like qui est omniprésente depuis maintenant 10 ans a débuté quelque part dans les bureaux de Facebook en 2009, soit 5 ans après le lancement du site. Personne n'aurait pu prévoir qu'un petit bout de code aurait autant d'impact dans la société. Selon leurs propres aveux, même les créateurs du fameux like n'avaient pas prédit une telle emprise sur nos habitudes numériques et regrettent d'une certaine façon la création de cette culture d'approbation continuelle. En fait, le bouton like, qui est passé par différents noms à l'interne chez Facebook, comme le bomb button ou le awesome button ou même le love button qui était considéré comme trop cheesy à l'époque, est finalement devenu ce qu'il est aujourd'hui, le like button. C'est une idée qui est née de la collaboration de plusieurs programmeurs qui travaillaient chez Facebook à l'époque, parmi lesquels figurent Leah Perlman et Justin Rosenstein. Pour vous mettre en contexte, Leah Perlman était une ingénieure réputée qui a fait de grandes choses, autant lors de son passage en carrière chez Microsoft que chez Facebook. Je dis « était » car en 2010, elle a complètement quitté le milieu de l'informatique pour devenir une artiste de comic book. Méchant changement de carrière. Et Justin Rosenstein, lui, a travaillé auparavant chez Google. Et suite à son passage chez Facebook, il a fondé le logiciel Asana, qui est un logiciel de gestion de projet très populaire aujourd'hui. Les développeurs avaient émis l'hypothèse que les utilisateurs de Facebook étaient souvent trop occupés pour laisser des commentaires sur les publications de leurs amis, ou que c'était souvent les mêmes commentaires qui revenaient, donc ils voulaient aussi éviter la redondance. Ils se sont dit que s'il suffisait de cliquer sur un simple bouton, ça allait être très facile pour les utilisateurs et les amis pourraient se valider réciproquement de manière beaucoup plus fréquente et beaucoup plus facilement. C'était très bien vu de la part de ces ingénieurs. Ça a marché. Très bien marché. Peut-être même un peu trop bien. Du coup, le nombre de statuts a explosé de la part des utilisateurs. Le premier milliard de likes sur Facebook est arrivé en 2012, un peu moins de 3 ans après son application. N'oubliez pas qu'au départ, on ne pouvait pas liker les commentaires comme aujourd'hui, mais seulement les statuts. Si l'implantation du petit pouce bleu a bien débloqué un océan de validation sociale et que tous les réseaux sociaux l'ont implanté, cela a aussi eu de troublants effets secondaires. Après avoir publié une photo ou un statut un peu provocateur ou de vague booking, nous nous sommes tous un peu mis collectivement à rafraîchir nerveusement notre page Facebook dans le but de voir le nombre de j'aime augmenter, car il n'y avait pas de notification à l'époque. Puis, nous nous sommes demandé pourquoi les autres avaient plus de j'aime que nous. Cela nous a poussé à augmenter d'un cran nos comportements quotidiens en ligne, en tentant d'être plus drôle, plus caustique, plus glamour, plus extrême que les autres. Ici, je généralise, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, le like est devenu un geste anodin au quotidien pour la plupart d'entre nous. L'addiction aux notifications, cette dépendance, cette petite récompense qui se cumule au travers de la journée peut devenir maladif malheureusement pour certaines personnes et les pousser à aller trop loin. Ici, j'ai sorti 2 exemples assez fous qui se sont passés en 2016 aux États-Unis. En novembre 2016, Markesha Tachelle Johnson, 24 ans, une jeune femme d'Asheville, une ville qui est située dans l'ouest de l'État de Caroline du Nord aux États-Unis, a été accusée et inculpée de faux rapports de police après qu'elle ait publié sur son profil Facebook qu'elle avait été kidnappée. Elle a affirmé qu'elle se trouvait dans le coffre de la voiture d'un homme, que son téléphone était en train de mourir et que l'homme avait une arme à feu. Elle a terminé sa publication en disant « S'il vous plaît, aidez-moi, ce n'est pas une blague. » La publication a été partagée 788 fois après 24 heures. Une autre histoire de 2016, la presse le surnomme « le mauvais samaritain ». Il y a un homme qui a été condamné à 30 jours de prison après avoir assisté sans réagir à un accident de voiture impliquant 2 adolescents. Et pour cause, puisqu'il était en train de filmer la scène. Originaire de l'Ohio aux États-Unis, Paul Pelton a été témoin d'un accident de voiture causé par la perte de contrôle du véhicule par l'adolescent qui se trouvait au volant. La voiture est ensuite rentrée dans une maison. Mais au lieu d'agir et de leur porter secours ou même d'appeler les secours, l'homme âgé de 41 ans est resté le téléphone à la main, continuant à filmer. Pire encore, il s'est approché du véhicule accidenté, a ouvert l'une des portières pour filmer l'intérieur de la voiture, avant de traiter les 2 victimes de l'accident d'idiots. Un comportement d'autant plus choquant que l'un des 2 adolescents est mort par la suite de ses blessures, imaginez. Comme le rapportaient les autorités, d'autres témoins sont alors intervenus pour aider les 2 passagers accidentés, mais à aucun moment Paul Pelton ne les a aidés. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce dernier n'a toutefois pas été condamné pour non-assistance à une personne en danger, ni pour avoir publié sur Facebook la vidéo de l'accident. C'est le fait d'avoir pénétré sur une scène de crime sans permission et pour avoir ouvert la portière de la voiture qui lui a valu un séjour en prison. Il n'existe pas en effet de peine prévue pour les comportements idiots. Il existe des tonnes d'exemples du genre partout dans le monde, sans parler de tous les vidéos en direct sur Facebook de meurtres ou de tentatives de meurtre pour attirer l'attention et les likes. C'était des exemples extrêmes que je vous démontrais là actuellement, mais ça démontre quand même jusqu'où certaines personnes peuvent aller simplement pour attirer l'attention. En conclusion, l'objectif de cette mini-disto n'est pas de culpabiliser personne sur son utilisation des réseaux sociaux, je suis moi-même un grand utilisateur, mais plutôt de nous faire prendre conscience de ces réflexes qui sont devenus anodins, mais qui peuvent avoir de graves conséquences. Comme on vous le répète souvent à Distorsion, il est important d'avoir une bonne hygiène numérique. Et ça, même les entreprises commencent à le comprendre. Instagram a retiré à certains endroits dans le monde le cumul des likes, là, le nombre de likes que vous pouvez avoir sur une publication, pour éviter justement cette course folle au plus grand nombre de likes et tous les troubles de comportement que ça peut avoir, en particulier sur nos adolescents qui sont plus sensibles sur leur estime d'eux-mêmes. Surtout qu'il est prouvé que le taux de suicide a augmenté chez les jeunes, entre autres à cause de l'écosystème des réseaux sociaux et de cette fameuse culture du like. Pour terminer, si vous êtes toujours demandé pourquoi la couleur de Facebook est le bleu, ce n'est pas pour vous manipuler parce que le bleu est la couleur qui représente la confiance, mais plutôt parce que Zuki, Mark Zuckerberg, est daltonien et que la couleur bleue est celle qu'il voit le mieux. C'est donc cette couleur qu'il a choisie pour représenter son site à l'époque. Pas plus scientifique que ça. Sur ce, j'espère que vous avez aimé. Je vous remercie de votre écoute. Bonne nuit et bye bye!